Bonjour Eric et Sylvie, je vous remercie de me recevoir. Donc, on est au local de la CGT à Lens.
Donc le local interprofessionnel, puisque la CGT est d'abord et avant toute chose un syndicat interpro, donc qui concerne toutes les professions, donc l'ensemble des salariés de notre pays.
Et donc toi, Eric Dubois, tu es aussi prof de techno en collège à Oigny, et toi, Sylvie Kmessiak, tu es aussi enseignante en lycée professionnel.
En lettres, histoire, géo.
Depuis un an et demi, donc, les enseignants et les enseignantes ainsi que les élèves ont dû s'adapter au contexte sanitaire et aux mesures prises par le gouvernement, parfois imposées et souvent à la dernière minute. À plusieurs reprises, les syndicats de l'éducation ont appelé à la grève, réclamant notamment plus de moyens dans les établissements scolaires, des recrutements de personnel, des revalorisations de salaire et la mise en place de mesures sanitaires conséquentes. Tout d'abord, de manière assez générale, c'est quoi la réalité sur le terrain depuis un an et demi ?
Alors, la réalité sur le terrain, elle est relativement facile à décrire dans le sens où c'est une continuité dans la dégradation et rien ne s'améliore et la crise sanitaire est venue en rajouter également. Donc, les soucis sont multiples. Pour ce qui est de la crise sanitaire, on peut parler des budgets qui sont bien évidemment insuffisants, des manques, par exemple, en purificateurs d'air, pardon, je veux aller trop vite, et qui sont totalement inexistants, alors que notre ministre renvoie une partie du budget au ministère de l'Éducation, au ministère des Finances, qui est proprement scandaleux, quoi. Donc, les budgets sont insuffisants et même ceux qui sont alloués ne sont pas entièrement utilisés. Donc, voilà où nous en sommes actuellement. C'est catastrophique.
Sylvie, donc toi qui, on le disait, enseignante en lycée, c'est quoi, en tant qu'enseignante, donc travailleuse dans un lycée, la réalité depuis un an et demi, les différences par rapport à avant, est-ce qu'il y a de la dégradation ou pas? Et aussi pour les élèves, qu'est-ce que tu notes pour eux? C'est quoi les conditions d'apprentissage aussi depuis un an et demi?
Pour ce qui est des élèves, au niveau de l'année passée, il y a eu quand même la période du Covid, donc il y a eu quand même une année un petit peu tronquée. Mais bon, c'est surtout au niveau du personnel où on voit quand même un personnel assez fatigué, on va dire, hein, déjà blasé dès la rentrée. Bon, en plus, on a eu une réforme au niveau du lycée professionnel qui a quand même pas mal complexifié nos tâches. On a des, comment dire, on doit un peu se disperser dans de la co-intervention, dans du chef-d'œuvre. Donc ça, plus ça, plus ça, c'est quand même un petit peu lourd, quoi. Donc le ressenti est quand même à la fatigue, et puis, bon, il y a quand même beaucoup d'inquiétude.
Par rapport à ce que tu viens de nous dire, Eric, la liste de ce qui ne va pas, est-ce qu'on peut dire que les revendications restent les mêmes aujourd'hui par rapport à, par exemple, avant l'été ou par rapport à l'année 2020? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le début de la crise au niveau des conditions et au niveau de vos revendications? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui ont été prises en compte par le gouvernement? Et puis, Sylvie, tu as fait un point aussi sur la reprise, mais aujourd'hui aussi, là, cette nouvelle reprise, comment ça se passe? C'est-à-dire par rapport à l'année dernière, est-ce que c'est les mêmes conditions? Est-ce que, voilà, un peu nous faire un point sur aujourd'hui où on en est.
Alors, au niveau des revenus, alors pour ce qui est de la situation, comme je viens de le dire, elle ne cesse de se dégrader, et ça depuis de nombreuses années. Les revendications des différents syndicats ne sont absolument pas prises en compte, si je peux m'exprimer ainsi. Un certain nombre de choses ont été dénoncées sans que l'on soit véritablement écouté, nous-mêmes entendu. Je parle par exemple de la loi de transformation de la fonction publique de Dussopt, où on a complètement saccagé le paritarisme, et donc les syndicats n'ont plus leur mot à dire sur le déroulement de la carrière, qui dit bien évidemment les rémunérations des différents personnels. Ça fait dans une opacité relative, sans que personne ne soit véritablement au courant. À l'époque où les syndicats géraient ou co-géraient ce type d'événements qu'on appelait des CAPA, donc des commissions paritaires, on dénonçait assez régulièrement, et j'ai presque envie de dire systématiquement, un certain nombre d'injustices qui maintenant sont totalement tues, puisque jamais plus révélées. Donc voilà, on en est de ce point de vue-là, enfin pour ce qui est du paritarisme. Maintenant, il suffit de regarder le nombre de candidats qui se présentent aux différents concours pouvant amener à des carrières dans l'enseignement pour se rendre compte qu'il y a un véritable malaise, parce que on se rend compte que dans bien des disciplines, à bien des niveaux, on a moins de candidats qu'il n'y a de postes disponibles, ce qui dénote quand même un attrait très très relatif. Et c'est une situation qui ne cesse de s'empirer, à la limite.
D'après toi, d'où ça vient ce non-intérêt, on va dire, des gens pour s'orienter vers des carrières professionnelles de l'éducation ?
Ben, deux points essentiels. Maintenant, pour entrer dans l'enseignement, on considère qu'il faut un bac plus 5, avec une rémunération qui n'est pas à la hauteur d'un bac plus 5, bien évidemment. Et pour illustrer ça, je prendrai l'exemple du pouvoir d'achat, qui a baissé quand même de 30% depuis 2010, depuis que le point d'indice a été bloqué, même s'il a été revalorisé de 0,6% en 2016 et 0,6% en 2017. Il n'en demeure pas pour autant moins vrai que les enseignants ont perdu quasiment 30% de pouvoir d'achat sur une dizaine d'années, si on compare bien évidemment les salaires à l'évolution de l'inflation.
Oui, il me semblait qu'il y a quelques mois, je m'étais penchée sur la question qu'au niveau européen, par exemple, on est un des pays où les salaires pour les enseignants sont les plus bas.
Tout à fait. On doit être placé 26e, me semble, de l'OCDE. Enfin, quelque chose d'absolument ridicule, quoi. Dans de nombreux pays européens qui ne sont pas si éloignés de nous, les salaires sont quasiment multipliés par deux.
Sylvie, toi, sur le terrain, est-ce que tu le vois au niveau de tes collègues, notamment des jeunes collègues qui arrivent, une différence un peu entre l'idée qu'on a de la profession de professeur et puis la réalité sur le terrain, ou même pour les collègues qui sont là depuis plusieurs années, est-ce que tu sens au fil des ans une motivation qui fluctue ?
Oui, effectivement. Tout à l'heure, vous parliez de non-intérêt. Bon, non-intérêt, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont vraiment fort motivés. Hein, mais bon, ils se découragent, en fait, devant tout ce qu'il y a à faire, devant les conditions de travail, etc. C'est aussi difficile d'envisager une carrière, maintenant. J'ai l'impression que, avec les grilles de notation, tout ça... On peut pas. La progression est un peu ralentie par rapport à avant. Bon, il y a des collègues, des jeunes qui commencent et qui arrêtent, qui démissionnent. On a eu, chez moi, là, dans mon établissement, il y a une collègue qui est partie. Bon, elle n'était pas toute jeune, mais somme toute. Et pareil, là, elle n'est toujours pas remplacée. Bon. Ce matin, j'entendais, il y avait une réunion syndicale et il y avait des collègues qui manquaient dans certaines matières en lycée professionnel. On manque de personnel. Mais chez les anciens aussi, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai jamais vu une rentrée avec un personnel aussi, un peu défaitiste et un peu blasé.
Donc j'ai cru comprendre, Eric, que pour toi, parce que ma question suivante était... ton avis, comment ça se profile pour les années à venir ? J'ai l'impression, en t'entendant, que ça n'a pas l'air très optimiste.
Du tout. Et les échéances électorales qui approchent, et les présidentielles en particulier, pourraient être une planche de salut pour sauver ce qui reste de l'éducation nationale. Mais j'ai bien peur que ça n'en prenne pas véritablement la tournure. Et j'invite donc mes camarades à se mobiliser, non seulement pour aller voter pour les personnes qui défendent véritablement une éducation nationale, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats, et également à se mobiliser au niveau syndical pour revendiquer des choses de façon à ce que l'éducation nationale s'améliore légèrement, ce qui serait une première depuis de nombreuses années.
Donc toi, tu parles de dégradation depuis plusieurs années. D'après toi, est-ce que la crise sanitaire, ça a été un prétexte pour le gouvernement à expérimenter des mesures pour l'éducation ?
Je n'en suis pas persuadé. Nous avons un ministre qui est un véritable spécialiste de l'éducation, doublé d'un idéologue. C'est une personne qui a été à la tête de la DGESCO dans le gouvernement Sarkozy, pardon, je cherchais son nom, et donc en étroite relation avec Luc Chatel. Et il faut savoir que lorsque Sarkozy a été battu par Hollande, Blanquer est retourné dans la vie civile. et pour devenir directeur de l'ESSEC ou quelque chose comme ça. Ben, je ne suis pas sûr de l'appellation, mais enfin, il était à la tête de l'ESSEC, donc une école de commerce. Je reste persuadé que son salaire de l'époque était bien plus important que celui qu'il touche actuellement. Et s'il a accepté un poste dans l'éducation nationale, c'est parce que Blanquer est pour moi, d'abord et avant toute chose, un idéologue, un véritable politique au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire valoir ses idées et qui a des idées libérales. Et il est là, à mon sens et à mon avis, et ça peut, enfin, qu'on me prouve le contraire si je me trompe, qui est là pour détruire l'éducation nationale et pour, en quelque sorte, répondre aux différentes injonctions, par exemple, de l'OCDE, qui l'écrit ouvertement ou qui le fait dire par ses représentants.
On parlait tout à l'heure un peu des revendications que vous avez au sein des établissements scolaires pour aussi les personnels, vous au sein de votre syndicat. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à obtenir un certain nombre de ces revendications ?
Ouais, il faut d'abord commencer par abroger les différentes lois qui font que notre quotidien se dégrade de façon régulière. Il faut bien évidemment parler du salaire parce qu'il faut absolument que les choses soient revalorisées parce que là, ce qui se passe, c'est absolument inadmissible. Il faut aussi prendre en considération un certain nombre de personnels, et je pense en particulier aux AED ou aux AESH qui sont déconsidérés comme jamais, qui sont à la merci d'un fonctionnement qui fait que ces personnes qui touchent en moyenne 700 euros sont servables et corvéables au quotidien. Il faut savoir par exemple que certains AESH ont passé des vacances sans savoir où ils allaient être nommés à la rentrée. Ils ont découvert ça la veille ou même le lendemain, sachant que quand on gagne 700 euros, le déplacement même de quelques kilomètres n'est pas forcément aisé. La CGT, bien évidemment, réclame un véritable statut pour ces personnels ainsi que pour les AED qui sont les anciens surveillants, pour ceux qui les ont connus, dans le sens où maintenant ce ne sont plus des étudiants, j'ai envie de dire malheureusement, qui financent en quelque sorte leurs études par ce biais-là, sont des personnes de la vie civile, généralement, enfin, parfois des dames d'un certain âge, qui sont obligées de passer par ce genre de travail absolument précaire pour assurer leur subsistance, tout simplement. Voilà où on en est. Alors, pour ce qui est de tout un tas de choses, effectivement, l'inacceptable, c'est la déconsidération, quoi. Et il faudrait peut-être non seulement qu'on revalorise nos salaires, mais également qu'on revalorise notre image. Et la première des revalorisations, à mon avis, est celle que l'on doit mener auprès des politiques qui nous considèrent comme rien, ou presque, quoi. Quand on prend la situation les situations qui est la nôtre et la situation des élèves dans les établissements, parce que en définitive, ce qui compte au-delà de notre image, au-delà de notre salaire, c'est quand même les conditions de travail, puisqu'elles sont liées à celles des élèves, bien évidemment.
Et alors, tous ces changements que tu souhaiterais voir, dont tu viens de parler, comment vous, enseignants et enseignantes, et aussi au niveau des syndicats, comment faire en sorte, c'est quoi vos moyens d'action, en quelque sorte, pour vous faire entendre et pour faire en sorte que ce soit pris en compte ?
Maintenant, l'état actuel, le seul moyen dont on dispose, c'est la grève. Et d'ailleurs, nous appelons à la mobilisation pour le 23 septembre dans le cadre d'une grève propre à l'éducation. Et également le 5 octobre dans un cadre plus élargi au niveau interprofessionnel. Mais en dehors de cela, je vois vraiment pas comment on peut faire, dans le sens où quelles que soient les commissions auxquelles on participe, les différentes idées qu'on peut émettre, qui à notre sens pourraient être des sources d'amélioration, ne sont pas entendues, pas écoutées, voire même tournées au ridicule.
Sylvie, est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter à la fois sur les revendications et sur les manières de faire bouger les choses ?
Ben, je reviendrai pour compléter un peu ce qu'Eric a dit tout à l'heure en disant, bon, par rapport à toutes ces réformes qui ont dégradé les choses, il y a aussi que dans les lycées professionnels, bon, on nous parle de l'apprentissage comme le remède absolu, en fait. Hein. Et là, bon, l'apprentissage, en fait, on sait très bien qu'à la longue, c'est un peu la mort des lycées professionnels, hein, même si on inclut des UFA dans chaque établissement, on nous dit que c'est ce qui va garantir la pérennité des établissements, mais bon, c'est un peu antinomique avec le public, en fait. avec la comment dire, les établissements publics.
Est-ce que tu peux réexpliquer peut-être en deux mots ce que ça signifie du coup apprentissage et qu'est-ce qui ferait que ça modifierait vraiment l'essence même d'un lycée professionnel? C'est le fait que ce soit finalement beaucoup plus dans les entreprises, des stages dans les entreprises, ou alors c'est le fait qu'il y aurait peut-être des matières en moins qu'actuellement au lycée professionnel?
Ben oui, c'est des stages en entreprise, puis c'est aussi le fait que, comment dire, les matières générales, elles sont un peu mises, on leur accorde moins d'importance. Hein, c'est pas, ça va jusqu'à l'idée que ce seraient les propres entreprises qui pourraient former leurs, comment dire, leurs apprentis. Hein, donc, moi, je vis ça comme une menace, en fait. Hein.
Et au niveau des collègues en général, que ce soit au collège ou en lycée professionnel ou même dans vos collègues dans les écoles ou dans les autres lycées, c'est quoi les réactions? Est-ce que donc tu parlais de un peu de fatalisme, mais ou de en tout cas de baisse de motivation, mais du coup est-ce que vos collègues sont prêts justement par exemple à sortir dans la rue le 23 septembre et le 5 octobre, ou est-ce que justement il y a un peu de défaitisme?
Malheureusement, il y a du défaitisme. C'est pas... Après, là, c'est la période de la rentrée. Tout le monde est un petit peu dans dans son organisation pour l'année, peut-être. Mais en général, moi, je ressens du défaitisme. Un peu du fatalisme.
Moi, j'irais même plus loin et je parlerais d'une perte de conscience, malheureusement. Les gens n'ont plus véritablement conscience. La société est devenue individuelle à un point tel que les gens raisonnent à la première personne, point stop. Donc, effectivement, ce qu'ils vivent, ce n'est pas génial, mais ils n'ont pas la conscience que les choses pourraient changer. Et pour eux, ils vivent ça, effectivement, comme tu viens de le dire, comme une espèce de fatalité, tout simplement.
Pour terminer, est-ce que tu peux donner un peu les horaires et les lieux pour les prochaines manifs, localement ou régionalement?
Alors ça, relativement bien, dans le sens où je ne veux pas faire un effort de mémoire surdimensionné, puisque la manif aura lieu à 14h30 à Lille, porte de Paris.
Merci Éric Dubois et Sylvie Kmiesiak d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes de la CGT Éducation, tous les deux professeurs en collège et en lycée professionnel. Et puis, bonne manifestation à vous.